Donc là, je vais passer dans le voir l'huissière. On va se présenter en sous-vêtements, sans chaussettes, sans rien, et faire le prélèvement d'urine.
Allez, déshabillez-vous. Vous mettez en sous-vêtements.
Le glyphosate est utilisé en agriculture depuis 1974. Breveté par la firme Monsanto, sous le nom commercial de Roundup, son usage fait partie du quotidien de nombreux agriculteurs. Facile d'emploi, c'est un pesticide d'une grande fiabilité et à moins de 10 euros le litre, son rapport prix-efficacité est imbattable.
Roundup, il n'y a pas mieux pour désherber. Et au prix où c'est maintenant, j'hésite pas, j'en mets partout dans les champs.
Mais en presque 5 décennies d'usage, le doute, puis l'inquiétude, se sont installés. Certaines maladies chroniques, notamment chez les agriculteurs utilisateurs massifs de la molécule, ont été repérées. Poussées par des citoyens consommateurs de plus en plus inquiets, le monde agricole est sans doute en train, très lentement, de faire évoluer sa doctrine.
Si le consommateur décide de ne plus manger tel ou tel fruit parce qu'on sait que c'est nocif, les producteurs changeront de comportement.
Sur la dangerosité précise de la molécule, les études scientifiques divergent. Mais en France, dans de nombreuses régions, des militants organisent des prélèvements pour démontrer la présence de glyphosate, cette molécule de la discorde, jusque dans les organismes de citoyens a priori peu exposés.
Interception.
Nous suivons Benjamin Mathieu en Ariège.
Le magazine de reportage de France Inter.
Il est 6h du matin, la petite commune ariégeoise de Le Fossat est toujours en train de dormir et pourtant, déjà une trentaine de voitures sont garées sur le parking de la petite salle communale. On va aller voir ce qui se passe. Bonjour.
Bonjour.
Devant la salle, on peut lire « Entrée analyse ».
Les hommes, c'est là, c'est même écrit, les femmes au bout. Donc c'est la première partie de la miction, vous évacuez, c'est comme toutes les prises d'urine, hein, et vous prélevez sur le milieu de la miction.
Nous sommes dans la salle communale de cette petite commune ariégeoise, le Fossat, et il y a environ une quarantaine de personnes qui sont donc venues participer au prélèvement pour la campagne glyphosate.
Marion, et j'ai déjà donné mon formulaire d'inscription.
Marion NG a 29 ans, elle est responsable de communication d'une association en banlieue parisienne. Elle est venue en fait ce matin observer comment se déroule la campagne de prélèvement. Elle est en train en fait elle-même de l'organiser à Paris. Les premiers prélèvements ont lieu depuis le début de l'année.
Là, c'est le numéro de lot sur lequel sera rattaché ton prélèvement, parce qu'il n'y aura pas ton nom dessus, mais juste le numéro. D'accord. Donc avec ce papier-là et la fiche de consentement et ta pièce d'identité, tu peux aller voir l'huissière, faire ton prélèvement, et ensuite tu passeras à voir Martine sur la table d'à côté pour le règlement.
Ok, merci. Donc là, je vais passer dans le voir l'huissière. On va se présenter en sous-vêtements, sans chaussettes, sans rien, et faire le prélèvement d'urine.
Alors du coup, moi, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, c'est bien normal. Je vais vous, du coup, ça, si ça ne vous dérange pas, je vais vous laisser le micro pour suivre un peu la procédure et puis pour vous nous raconter un peu comment ça se passe.
Ok.
On va faire comme ça ?
Très bien.
Bonjour, madame. Allez, déshabillez-vous.
Oui.
Vous aussi, mademoiselle, laissez-moi le micro, là, regardez. Hop là.
Là, on se met en...
Voilà, tout à fait. Vous vous mettez en sous-vêtements.
Je suis Françoise Loubatière, je suis huissier de justice à Mirepoix dans l'Ariège avec mon associé Pierre Castella. Nous intervenons donc pour la campagne glyphosate afin de sécuriser les prélèvements d'urine qui seront ultérieurement dans la matinée envoyés à un laboratoire d'analyse médicale en Allemagne. Donc notre fonction consiste à vérifier que les gens, déjà à l'état des toilettes dans lesquelles les gens vont effectuer leur prélèvement, il n'y a rien dans les toilettes à part une cuvette, pas de papier et rien d'autre. Les gens rentrent en sous-vêtements, nous leur donnons un tube auquel nous avons attribué un numéro et nous procédons à l'enregistrement de l'identité de la personne qui correspond au numéro du tube, de façon à ce que l'anonymat ne soit levé qu'au moment des résultats, si les personnes le souhaitent.
Alors maintenant que j'ai fait le prélèvement, il faut que j'aille payer et remplir le questionnaire de mode de vie, donc au poste 4 et au poste 5.
Ok,
Vous avez déjà préparé votre chèque?
Oui, je l'ai préparé en avance. Vous donnez à quel ordre le chèque?
À campagne glyphosate.
Alors, Martine Schultz-Sanson, vous êtes l'une des instigatrices de cette campagne glyphosate en Ariège. Oui. Vous nous dites que les personnes qui viennent faire des dépôts payent. Elles payent quoi en fait?
Elles payent leur analyse, 85 euros. Donc s'il n'y a pas de plainte, on s'arrête à l'analyse, c'est 85 euros.
L'analyse de ses urines?
L'analyse de ses urines. À partir du moment où il y a une plainte, c'est 135 euros. Parce qu'effectivement, il y a des huissiers qui interviennent. Ces huissiers, il faut les payer, c'est 250 euros de l'heure. Et pourquoi elles ne payent que ça? Parce que cette plainte, il va falloir la défendre. Et donc, au niveau de la campagne nationale, il y a eu un crowdfunding de lancer, donc effectivement un appel aux dons, qui marche pas mal, quoi. Et ce crowdfunding va servir à payer nos avocats. Et donc, c'est une plainte individuelle qui est portée collectivement et qui sera défendue par des avocats, les avocats de la campagne.
Vous me disiez, 90% des personnes portent plainte. Donc ça veut dire qu'elles payent 135 euros. Comment vous l'expliquez ça, que autant de personnes qui participent à la campagne glyphosate vont jusqu'au bout et jusqu'à la porte
plainte? Moi je l'explique, parce que la campagne glyphosate, c'est contre tous les pesticides. Les gens sont de plus en plus conscients qu'on les empoisonne, d'une certaine manière. Savoir qu'on a des pesticides dans ses urines et savoir qu'on peut faire quelque chose, je pense que c'est ça qui motive les gens. Voilà.
Alors, ce questionnaire mode de vie, il est anonyme et confidentiel. C'est juste votre numéro d'échantillon qui sera relié au taux.
D'accord.
Il y a des statisticiens qui vont étudier comme ça tous les résultats. Donc aucune question obligatoire. Par contre, c'est fortement recommandé pour qu'on puisse quand même enfin comprendre les causalités entre les taux forts, faibles et les modes de vie.
Ah oui, donc on regarde un peu, je pense, géographiquement, les gens viennent d'où. Donc moi, j'habite à Montreuil.
Vous aviez déjà fait ces tests d'urine ou c'est la première fois?
C'est la première fois. J'ai jamais fait encore.
Donc j'imagine que vous êtes assez impatiente de savoir, même quand on est montreuilloise, de savoir si vous avez du glyphosate dans vos urines.
Alors, en principe, du glyphosate dans mes urines, j'en aurai, parce que tous les gens testés en ont. Après, moi, j'habite en ville, donc en principe, en ville, aujourd'hui, c'est interdit dans les espaces publics d'en mettre du glyphosate, donc il n'y en aura pas. Je consomme plutôt bio. Normalement, je ne devrais pas avoir des taux trop élevés. Bon, voilà.
Excusez-moi, monsieur. Je peux vous déranger deux petites secondes. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Michel.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, si c'est pas indiscret?
Moi, je suis retraité, là, et je suis élu de ma commune, je suis le maire de ma commune aussi.
Donc, il y a une démarche militante, là, pour le coup?
Et même politique, oui, pour que... Oui, militante également, par rapport à ma situation personnelle, mon état de santé, sans doute, et politique aussi, parce que si on ne fait rien, il ne se passera rien.
Quand vous dites votre état de santé, ça veut dire vous inquiétez pour votre santé, de la présence du glyphosate dans vos urines?
Oui, j'ai été opéré au printemps, oui, je me suis séparé de ma vésicule biliaire et il était temps de le faire. Bon voilà, y a-t-il une corrélation avec l'état de l'environnement, le glyphosate peut-être, d'autres choses? Oui, je suis en quête d'informations, oui.
Vous avez eu un métier à risque ou est-ce que c'est...
Absolument pas, j'ai juste vécu à la campagne.
Donc proche quand même du monde agricole, de vignes
Au milieu des champs, oui, bien sûr. Bon, au-delà de ma santé, qui est une première question, il y en a une autre sur l'état de l'environnement en général. Depuis 50 ans, depuis ma naissance, je suis dans la nature et je vois que les choses changent. Voilà, je suis effaré, quoi. Il y a pas la même vie animale, il n'y a pas la même biodiversité. C'est inquiétant, quoi.
De ces questions-là, est-ce que vous en discutez, par exemple, avec les agriculteurs de votre commune?
Ça peut m'arriver, oui, bien sûr, mais bon, ça va jamais très loin, parce que de toute façon, les agriculteurs, ils savent pas faire autrement, parce qu'on ne leur donne pas d'autres solutions. Donc je suis très heureux de voir que dans l'enseignement agricole, par exemple, les choses ont changé, le discours n'est plus le même qu'il y a 30-40 ans, mais bon, c'est la durée qu'il faut pour un changement d'habitude.
Merci beaucoup, je vous laisse continuer de répondre à votre questionnaire.
Alors, alimentation plutôt bio, et il me demande un pourcentage. Ouh, ça, c'est difficile à évaluer parce que c'est vraiment fluctuant. Est-ce qu'il y a eu des périodes de jeûne? Non. Des cures de détox? Non. Fréquence de viande par semaine? C'est plutôt deux fois. Boisson, eau, quantité exprimée, estimée en moyenne par jour. Est-ce que je fume ? Fumeur actuel, ancien fumeur. Avez-vous une activité sportive ? Quelquefois. Est-ce que vous cultivez votre jardin ? Non. Êtes-vous utilisateur de produits à base de pesticides ? Non, bien sûr que non. Utilisez-vous des pesticides à base de glyphosate, même occasionnellement ? Non.
C'est très précis ce questionnaire, Marion.
Bon ben voilà, j'ai fini. C'est la dernière table, donc c'est bon pour moi. Voilà.
Parmi les membres de l'association les plus investis, il y a notamment Dominique Masset. C'est lui qui a créé la mallette qui permet d'expliquer comment réaliser une séance de prélèvement de la façon la plus rigoureuse possible. C'est cette mallette, ce kit qui sert à ceux qui souhaitent participer à la campagne, et bien de la mener dans d'autres régions de France.
Oui, jeune homme.
Bonjour.
Je vous vois ou je tutoie ?
On se vous voit parce qu'on est sur France Inter.
Très bien.
Donc là, une quarantaine de personnes ce matin sont venues faire leur test. Alors ces résultats, ils sont exprimés en quoi ?
Ils sont exprimés en nanogrammes par millilitre d'urine. Hein, donc on a des taux qui vont de le plus bas en Ariège, c'est 0,15 nanogrammes par millilitre. Et le plus gros, c'est 3,55. Il n'y a pas de norme, mais il y a comme point de référence, l'eau potable en Europe, c'est 0,1 nanogramme. Donc pour l'instant, on a tout le monde à au-delà de la norme autorisée dans l'eau potable, mais certains avec énormément plus, avec une moyenne globale de 1,1-1,2, c'est-à-dire 11 fois, 12 fois l'eau potable. Et moi, j'ai 3,3 nanogrammes, c'est-à-dire toujours une référence qui n'a pas de valeur scientifique, mais qui est 33 fois ce qui est autorisé dans l'eau potable.
Pourquoi est-ce que vous comparez de l'urine avec des normes dans l'eau potable ? Parce que, en fait, c'est pas vraiment comparable.
On ne compare pas. C'est juste pour donner une notion de volume. S'il n'y a pas un point de référence, c'est compliqué de se dire j'ai beaucoup, j'ai pas beaucoup.
On a l'impression que justement c'est ce côté scientifique qui manque. Comme s'il n'y avait pas vraiment d'enquête très précise sur la présence du glyphosate dans le corps humain et ses conséquences. Est-ce que c'est le cas ?
Ben, c'est le cas en grosse partie. Hein. Il y a eu des études de fait, mais c'est sur les rats, c'est sur des animaux hein, qui n'ont pas tout à fait la même justesse que sur l'homme, mais il n'y a pas d'études épidémiologiques. Actuellement, nous faisons le travail de l'État en ce moment. C'est les services sanitaires nationaux devraient lancer ces campagnes. C'est eux qui devraient faire des études épidémiologiques. Comme il y a carence, on a décidé de le faire nous-mêmes. Et c'est constitué en Ariège un groupe scientifique avec médecins, biologistes, spécialistes de l'eau, cartographes, sociologues, statisticiens, pour faire une étude quantitative et qualitative des résultats qu'on va collecter dans toute la France.
Il y a un petit déj à côté.
Alors l'autre salle où il y a beaucoup de monde et qui a du succès, c'est celle où on peut prendre un petit déjeuner, puisqu'il faut venir à jeun. Et donc du coup, on peut, une fois qu'on a fait son test, boire un café, manger une petite tartine. Tout est bio.
Ouais, tout est bio.
On est de retour avec Marion, qui a terminé donc toutes ses analyses. Marion, vous êtes beaucoup intéressée à la question du glyphosate, et notamment à son utilisation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, a été utilisé pour bien d'autres choses que pour l'agriculture au début, dans les années 70 notamment.
Alors le glyphosate, il a été créé en 1950. En 64, il y a eu un premier brevet comme chélateur de métaux, c'est-à-dire qu'il a la propriété de dissoudre les métaux dans l'eau. On s'en sert encore notamment pour déboucher les canalisations ou les chaudières. Ensuite, en 1974, il a été breveté comme désherbant à large spectre. Et c'est ce qui fait qu'il y a une grande consommation. Et en 2010, il y a eu un nouveau brevet qui a été posé comme antibiotique à large spectre et antiparasitaire. Ça fait qu'on retrouve beaucoup de métaux lourds qu'on retrouve dans les puits. Et notamment au Sri Lanka, il y a actuellement 15% de la population en âge de travailler au Sri Lanka qui est atteint de la maladie chronique des reins. Et cette maladie, elle vient d'une accumulation des métaux lourds dans les reins. Parce qu'ils utilisaient beaucoup dans les rizières du glyphosate, que année après année, ça dissout les métaux dans la terre. Les gens qui boivent l'eau du puits se retrouvent avec trop de métaux lourds et donc avec cette maladie des reins. Ceux qui sont reliés aux canalisations normales de la ville, de l'eau de ville, n'ont pas cette maladie des reins.
La campagne glyphosate contre Monsanto-Bayer, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre.
Nous, la campagne, elle n'est pas contre Monsanto et Bayer. La campagne, elle vise à faire interdire les pesticides. Mais réellement, nous, ce qu'on veut, c'est que la France et l'Europe regardent ces études, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais fait ça, de voir que massivement tout le monde en a. Donc si on en a, toutes les plantes en ont aussi, tous les animaux autour de nous en ont aussi. Donc c'est pour dire, regardez cette contamination et réalisez-vous les études. C'est extrêmement coûteux, nous, on ne peut pas se permettre de les faire. On a aujourd'hui, sur le crowdfunding, on a 15 000 euros, quelque chose comme ça.
Vous vous considérez comme des lanceurs d'alerte ?
Oui, oui, oui.
Il faudrait que Mme Batière vienne, il faut l'accompagner. Hein. Pour l'aider à porter, il faut venir avec tous les prélèvements.
Pardon. Merci.
Alors ça, 17, c'est le lot des hommes, et 26, c'est le lot des femmes. On ne peut pas avoir de...
Il faut ramener les papiers qui sont...
Oui, je vais les chercher, mais je veux
Je vais les chercher. Voilà, ça c'est bon.
Allez, prenez-vous.
Qu'est-ce qu'on met je lance le chronomètre.
Mettez 15 minutes. Je vais être plus fort.
Il est 9h15, la séance de prélèvement est terminée. On fait un petit bilan. 49 personnes sont venues effectuer ce prélèvement d'urine. Sur ces 49 personnes, 43 vont porter plainte. Maître Loubatière, on est en train d'emballer les fioles dans un gros colis. Oui. Qu'est-ce que tu vas en faire après de tout ça?
Et ce gros colis, je vais l'amener à la poste. Et il va partir en chronopost international jusqu'à Leipzig, au laboratoire, où il sera réceptionné pour procéder aux analyses. Et d'ici une dizaine de jours, on devrait recevoir le résultat des analyses. Et on pourra lever l'anonymat et communiquer les analyses à tous les gens qui ont participé à la campagne de ce jour.
Voilà,
c'est fini pour nous.
Interception sur France Inter.
Je sais qu'un certain nombre de personnes fait doser le glyphosate dans leurs urines. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de suivre ce qui ressemble à une étude d'imprégnation, même si elle n'est pas dans les canons scientifiques.
Nous sommes allés demander à Françoise Weber, directrice générale déléguée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ce qu'elle pensait de cette initiative citoyenne.
Il est difficile néanmoins sur ce qu'on a dans la presse, les quelques résultats qu'on voit dans la presse, de tirer des conclusions. D'abord parce que on ne sait rien ni de la fréquence de ces dosages, ni de l'exposition et du mode de vie des personnes qui ont été dosées. Et puis surtout, la comparaison de ces taux à des limites de qualité de l'eau de boisson n'a pas beaucoup de sens.
Pour qu'on comprenne bien, ils comparent des taux de glyphosate dans leurs urines avec une norme qui est acceptée dans l'eau.
Voilà. Alors la norme de l'eau, c'est une norme de qualité qui a été fixée dans l'objectif de n'avoir aucun pesticide dans l'eau. Donc à l'époque, on a fixé la norme à la limite de quantification. Et ça n'a aucun rapport avec une limite de toxicité. Donc la comparaison n'a pas beaucoup de sens. La question qui se pose, c'est de savoir si le fait d'excréter cette quantité est évocateur d'une toxicité. Là, c'est très difficile à dire, puisque avoir du glyphosate dans les urines, ça veut dire qu'on a été exposé et qu'on l'élimine, et en général, on l'élimine très rapidement. La demi-vie est de 3 heures, ça veut dire qu'en quelques heures, on a éliminé une bonne partie de la quantité à laquelle on a été exposé. Donc, il est très difficile, voire impossible sur un simple résultat de dosage urinaire, d'en déduire qu'il y a une exposition, une toxicité chronique. Ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, une personne chez laquelle on retrouve du glyphosate et de l'AMPA, qui est un métabolite du glyphosate dans les urines, a vraisemblablement été en contact avec le produit. On ne peut rien dire de plus.
Alors, ils font très attention justement à ce que, en termes de procédure scientifique, les choses soient faites dans des normes, justement pour ces valeurs scientifiques. Ils font également actuellement un questionnaire qui permet de savoir comment ils vivent, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont proches de champs, est-ce qu'ils mangent bio. Donc, ils essayent quand même d'avoir une démarche la plus scientifique possible.
Mais c'est très intéressant. Moi, je souhaite vraiment qu'on ait communication de ces résultats dans leur ensemble pour pouvoir en dire quelque chose. Mais cette question de l'imprégnation, comme je le disais tout à l'heure, elle est importante. Elle est importante pour le glyphosate, elle est importante pour l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, des produits chimiques, des biocides, y compris de ceux qu'on utilise à la maison, auxquels on est exposé. Et c'est pour ça que nous, l'ANSES, on travaille depuis longtemps sur ces sujets-là et qu'on a participé à un certain nombre d'études et notamment à l'étude Esteban, qui est une étude que nous menons avec Santé publique France, sur l'imprégnation de la population en polluants en général et en pesticides en particulier. Et nous espérons avoir, dans le courant de l'année 2019, les résultats de cette étude, qui aura le mérite de porter sur une population qui est représentative, à la fois des milieux urbains et non urbains, et puis des localisations territoriales. Donc on aura pour la première fois une photographie de l'imprégnation en pesticides, et notamment en glyphosate, de l'ensemble de la population, dans des conditions qui seront très standardisées. Donc ça sera un résultat très important qu'on devrait avoir en 2019.
On vient d'arriver chez Martine, de la campagne glyphosate, qui vit dans une petite ferme reculée dans l'arrière-pays ariégeois. Elle a donné rendez-vous à une partie de l'équipe. Ils se réunissent pour préparer leur sortie cet après-midi au tribunal de Foix, où ils vont aller déposer les plaintes recueillies lors d'un précédent prélèvement. Belle vue sur les Pyrénées dans le jardin.
Je m'appelle Denis Gruand et je suis habitant de l'Ariège, travailleur indépendant et un peu militant.
Alors là, on est chez Martine, on est en hauteur, on a une vue sublime sur les Pyrénées.
Eh ben oui, c'est ça, là on est sur les coteaux qui sont avant les premiers contreforts des Pyrénées, donc on a une vue panoramique, c'est magnifique ici. Si j'ai décidé d'habiter ici, c'est parce qu'en fait j'ai toujours vécu à la campagne. En fait. J'ai essayé de vivre à la ville, ça n'a pas marché, en fait je suis bien ici. Donc je me suis calé dans un endroit où on est préservé, c'est la montagne, il y a un petit peu d'agriculture, mais c'est des petits agriculteurs, donc voilà, c'est pas l'intensif. Je fais mon jardin, je fais mes légumes, et en fait, je suis contaminé sans le vouloir. Et ce constat, en fait, ça me révolte. Le fait qu'une des libertés fondamentales, c'est en fait de faire ce qu'on veut, par exemple bien se nourrir. Donc je vais faire mon jardin, comme ça je sais ce que je vais manger. Et bien malgré cela, j'ai du glyphosate dans mes urines, j'ai 3 enfants, il y en a 2 qui ont fait les analyses la dernière fois. Tous les deux en ont. Mon fils qui a 12 ans, c'est celui qui a le taux le plus élevé dans le lot. Et je me dis, mais quelle injustice!
Il y a un départ en voiture, on va au tribunal de Foix, c'est ça?
Alors,
oui.
Qui part,
c'est ça, on va aller présenter les plaintes.
Allez-y.
Devant le tribunal de Foix.
Denis, toi, tu vas partir aussi.
Je peux venir avec toi?
Ok. Est-ce qu'on prend des inscriptions à la mairie ou pas? Ou est-ce qu'on dit qu'on les prend que au tribunal? Auquel cas, je vais déposer le carton là-bas.
Oh non, mais qu'au tribunal, oui.
Donc l'objectif d'aujourd'hui, donc, c'est de revoir toutes les plaintes une par une, de s'assurer qu'elles sont correctement remplies.
Nous sommes arrivés à l'hôtel de ville de la mairie de Foix. Il y a une trentaine de personnes de la campagne glyphosate qui sont en train de préparer leur dépôt de plainte. Ils sont en train de vérifier en fait que les papiers sont bien remplis pour pouvoir ensuite se rendre en cortège au palais de justice qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici.
Donc normalement, une fois qu'on a fait ça, on se rendra en cortège jusqu'au tribunal, hein, où on va déposer nominalement nos plaintes. Et là, il y aura Arnaud qui est là-bas. Et son boulot à lui, ça va être de récupérer...
Le deuxième exemplaire tamponné.
Il y a un exemplaire qu'il garde et qui va être transféré à Paris, hein, au pôle de santé publique à Paris. Et l'autre exemplaire est destiné aux avocats.
Vous avez fait vos prélèvements au mois d'octobre ?
Oui, tout à fait. Oui. J'ai 0,99.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, comment vous appelez ?
Paul Duclin. J'ai habité Lyon pendant des années. Et ça fait un an et demi que je suis à Saint-Girons et que j'ai rejoint les Faucheurs. Donc je me suis engagé dans cette lutte contre les pesticides. Et finalement, ben, j'ai porté plainte parce que je pense qu'on en a marre d'être empoisonné, d'une part. Et puis d'autre part, je fais partie aussi des Gilets jaunes. Je crois que c'est le même combat. C'est deux mouvements qui vont dans le même sens, c'est-à-dire on pourrait vivre heureux sur cette terre. Ici, c'est peut-être utopique, mais n'empêche qu'il faut aller vers dans cette direction. Il faut se battre pour que tout le monde vive mieux. Et pour vivre mieux, il faut partager. Le gros problème, c'est ça.
Merci, Paul.
Voilà. Il n'y a pas de quoi.
Apparemment, vous allez rentrer,
apparemment, on est refoulé, non ?
Non, vous allez rentrer 5 par 5, il vient de le dire, le Gigi.
5 par 5.
Ah, d'accord, pardon. Eh bien, écoutez...
Vous voyez, la justice vous accueille.
Voilà.
Chacun le palais de justice.
Mais c'est normal.
La presse.
Hein, c'est
bien.
Il est trop tôt, bien sûr, pour connaître l'issue judiciaire de toutes les plaintes de ces citoyens qui s'inquiètent de l'impact du glyphosate sur leur santé. Mais à San Francisco, en août dernier, Dwayne Johnson, un jardinier atteint d'un cancer incurable, a fait condamner Monsanto, désormais filiale de Bayer, à 289 millions de dollars d'amende pour défaut d'information sur la dangerosité du produit.
Monsanto a-t-il échoué à mettre en garde contre les risques potentiels ? La réponse est oui.
En Europe, on en est loin. L'Union a décidé en novembre 2017 d'interdire l'usage du glyphosate d'ici fin 2022. En France, ce sera au plus tard dans 3 ans, avait alors tweeté le président Macron. Et puis, il y a quelques jours...
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans ? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai.
Cette déclaration, dans le cadre d'un débat avec les Français, a réveillé les soupçons de collusion avec le lobby agro-industriel. D'où une mise au point d'Édouard Philippe sur France Inter le 30 janvier.
On a pris l'engagement de faire en sorte que l'utilisation du glyphosate diminue, voire disparaisse, dans les 3 ans. On sait qu'il y a un certain nombre de filières où produire autrement est, à ce stade de la recherche, impossible.
Pourtant, les agriculteurs eux-mêmes savent bien qu'il va falloir changer d'époque. On retourne au sud de Toulouse avec Benjamin Mathieu.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes sur les hauteurs de Saverdin, toujours dans l'Ariège, dans l'arrière-pays, sur des petites routes et nous allons à la rencontre de Éric Delatour. C'est un agriculteur qui a d'abord commencé en conventionnel et qui, après une prise de conscience, a décidé d'arrêter totalement les pesticides et de devenir agriculteur en bio.
Je m'appelle Éric Delatour, je suis agriculteur, éleveur de moutons, j'ai 61 ans. C'est une démarche personnelle qui m'a amené à vouloir vivre à la campagne. Et comme j'avais pas trop de sous au départ, c'était l'installation avec des moutons en élevage qui était le plus favorable à la réussite de mon installation. Pour réussir à payer mes emprunts, j'ai été obligé de faire comme tous les paysans, c'est-à-dire pratiquer une agriculture conventionnelle avec pesticides, engrais, etc., etc.
C'est ce qu'on apprend quand on fait des études pour devenir agriculteur.
À l'époque, c'était ce qu'on apprenait. Il y avait quelques tentatives alternatives, mais qui n'étaient pas encore tout à fait au point, et c'était pas trop diffusé comme aujourd'hui. Et puis, on n'avait pas le recul nécessaire sur la toxicité des produits, etc. Même si on le sentait déjà un peu, hein, quand je passais dans mes champs, je voyais des petites bêtes qui étaient mortes. Alors, il y avait les mauvaises bêtes, mais il y avait aussi les bonnes. Donc, ça interroge un peu, mais on a des charges financières, des emprunts à rembourser. Donc, on y va. Et puis, il se trouve que à partir du moment où financièrement, j'ai pu rembourser mes emprunts, à partir de là, je me suis dit, on va essayer de faire autrement. Donc, je suis passé en bio.
Comment ça se passait avec les collègues dans la vallée, qui étaient peut-être également conventionnels ? Est-ce que vous discutiez des pesticides ? Est-ce que vous vous posiez des questions ?
Oui, mais la majorité des paysans se posent ces questions-là. Il y a une révolution silencieuse qui est en train de se faire aujourd'hui, à savoir que les paysans conventionnels prennent conscience tout doucement de la réalité de ces problèmes écologiques. Alors, ils ne vont pas passer en bio directement, mais certainement avec les nouvelles technologies aussi. L'évolution va se faire dans ce sens, en tout cas avec
de moins en moins de pesticides.
Merci pour le café.
Avec plaisir.
Vous discutez, Éric Delatour, avec vos collègues?
Oui, je crois qu'il faut...
Leur démarche change également?
Oui, leur démarche change. Alors, c'est difficile pour certains, dont les parents, grands-parents faisaient d'une certaine façon. C'est difficile. Parce qu'en plus, il y a des relations amicales avec les firmes agroalimentaires, enfin, ou en tout cas, je sais pas, Monsanto, Bayer, etc. Il y a des affinités qui se créent. Bon,
et puis ils travaillent ensemble depuis des années.
Les mecs gagnent leur croûte avec ce système-là. Donc c'est pas facile, mais la prise de conscience est là.
Vous avez connu des cas de confrères à vous qui ont eu des problèmes de santé à cause
Ouais. Il y a une pathologie qui est plus ciblée sur les paysans, c'est vrai. Et puis maintenant, il y a des maladies professionnelles dues aux pesticides, notamment reconnues par les MSA, la maladie de Parkinson notamment, ou d'autres. Et puis c'est quand même avec effet retard tout ça. C'est au bout de 30, 35 ans, s'il n'y a pas eu de contact aigu quoi, avec les pesticides. Mais il faut en faire prendre conscience à une majorité, parce que qui, au bout du bout, est le maître, c'est le consommateur, quoi. Donc si le consommateur décide de plus manger tel ou tel fruit parce qu'on sait que c'est nocif, et ben, les producteurs changeront de comportement.
Nous avons maintenant rendez-vous chez Gaël Giordano à Sieuras.
Bonjour.
Entrez.
Ce jeune agriculteur céréalier de 34 ans a repris l'exploitation familiale en conventionnel. Il a décidé de passer en bio en 2016. Et là, il nous emmène sur son exploitation.
Donc là, en partant voir la parcelle donc de couvert végétal qui est juste en face de vous, on traverse un champ de seigle, du seigle forestier, implanté donc en semi-direct sur une culture de soja. Voilà, le soja a été récolté. Et le seigle a été semé directement. Voilà, donc on peut s'apercevoir en passant que la parcelle est assez propre. Donc on voit le seigle qui est super vigoureux, vert. Et l'interrang, c'est-à-dire la place libre, est quand même assez propre. La propreté vient du non-travail du sol. Quand on touche le sol, on réveille tout le stock de mauvaises herbes. Et c'est là qu'elles sortent. Donc si elles sortent, après il faut les détruire. Donc si on ne touche pas, on limite cette levée de mauvaises herbes.
Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait encore du travail.
Moi, je suis au tout début parce que voilà, je suis jeune, je viens de passer en bio, je change de technique. Donc, j'ai pas trouvé la solution miracle et malheureusement, je ne la trouverai jamais. Il faut faire, il faut échanger, il faut partager, il faut même l'échec, il faut le réessayer suivant l'année climatique. Et les échecs, on les partage. On ne partage pas que les choses qui marchent.
Selon vous, une agriculture sans pesticides, par exemple dans ce département, est-ce que dans le futur, je sais pas, 30 ans, 40 ans, c'est possible ?
Je pense qu'il y a des zones où c'est qu'on n'aura pas le choix de passer en bio. S'il y a des parcelles, on est à 40 quintaux de blé, on veut faire 100 quintaux, on n'y arrivera pas. Donc je me dis, là, sur ces parcelles-là, peut-être il faut réfléchir à autre chose. Voilà, moi je parle de mon territoire à moi, où c'est qu'on a des rendements quand même assez moyens, on va dire, moyens. On peut, il y a un intérêt.
Eh hey Benja, c'est jour de rugby.
Ouais.
C'est sur le canal.
Moi, je m'appelle Benjamin Gazna. Je suis installé en GAEC avec ma sœur et mon père sur la commune de Castex, juste à côté là. Et on a aussi une partie céréale en conventionnel dans la vallée de la Lèze, à Saint-Sulpice-sur-Lèze.
Donc voilà. Vous êtes un peu en bio, un peu en conventionnel?
Alors ouais, nous on a la partie élevage qui est 100% en bio et on a une partie céréalière, 200 hectares de céréales, par contre là en conventionnel, mais en semi-direct sous couvert.
Alors, qu'est-ce que vous faites sur l'exploitation de votre collègue
Alors là, on vient récupérer un outil qu'on avait en démonstration. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Mais après, on travaille beaucoup ensemble. On a les trois quarts du matériel ensemble pour limiter les coûts, en fait, et pour pouvoir s'équiper de matériel plus performant qu'on ne pourrait pas se payer tout seul, quoi.
Et vous êtes que tous les deux ou il y a d'autres
Non, on est 17 en tout. Ça nous permet en fait de pouvoir se servir d'outils performants, de gagner du temps, d'être plus performant et d'accéder à des techniques nouvelles. Le semi-direct, des semoirs comme celui-là, ça vaut très cher et tout seul on ne pourrait pas se le payer. Donc mais là, du fait qu'on soit plusieurs, on a pu s'en payer deux, quoi. Voilà.
Et ce semoir-là, en l'occurrence, c'est le bleu, c'est ça ?
Le vert, là.
Le vert ?
Le John Deere, ouais.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Ben, en fait, il nous permet de semer directement sans travailler le sol. Voilà. Et avec ce système-là, on arrive aujourd'hui à avoir zéro érosion, et puis on a les sols qui revivent. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que ça va mieux, quoi.
Le fait que votre collègue soit, lui, complètement en bio et qu'il teste de nouvelles techniques, est-ce que c'est, il partage ses connaissances avec vous ? Est-ce que ça vous fait aussi évoluer ?
Et tout à fait, en fait. Du fait qu'on ait le matériel ensemble, ça nous permet de tester ces techniques. Nous, on en teste d'autres, qu'il y teste. Enfin, on avance à plusieurs, quoi, en fait. Voilà.
Bon. Interception.
Qu'est-ce que le décharge, j'ai la salle, on décharge ce qu'il y a dedans.
Le magazine de reportage de France Inter.
Je vais vous poser deux, trois questions.
Allez-y, allez-y.
Bah déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter au micro ?
Aude Pelletier, technicienne à la chambre d'agriculture de l'Ariège. On accompagne les agriculteurs aussi bien dans des collectifs qu'individuellement pour les motiver, les aider dans la mise en œuvre technique de ces nouvelles pratiques.
D'ici 3 ans, si on suit ce que nous a dit le gouvernement, le glyphosate devrait être interdit. Je dis devrait parce que c'est pas encore très très sûr. On comprend pas trop bien d'ailleurs où on va. Mais en tout cas, j'imagine que vous n'attendez pas cette date limite pour accompagner les agriculteurs vers la fin de l'utilisation du glyphosate.
Tout à fait, on est sur cette anticipation. On ne veut pas arriver devant un échec et être au pied du mur, donc on réfléchit aux pratiques qui sont possibles à mettre en œuvre pour anticiper cet arrêt. C'est quand même assez compliqué, il n'y a pas de traces toutes faites. On s'appuie sur des réseaux, on s'appuie sur ce qui se fait aussi dans d'autres départements. C'est de la mise en œuvre d'itinéraires techniques assez globaux pour voir comment est-ce qu'on peut diminuer l'utilisation des pesticides. Et comme on l'a vu avec Gaël, c'est des rotations, des couverts végétaux. On n'est pas sur de la recherche de substitution, de remplacer une molécule par une autre ou reporter le problème sur quelque chose de similaire, c'est pas la piste. Après, il y a plein de choses qui se font au niveau des biocontrôles, au niveau des techniques de désherbage alternatives, des nouvelles technologies, mais qui sont pas encore applicables dans les champs. Donc on est aussi à l'écoute de ce qui se fait au niveau de la recherche et au niveau des nouvelles technologies.
Selon vous, en fait, le changement, c'est un changement de faire de l'agriculture, finalement.
L'agriculture restera toujours le fait de produire une culture dans un champ. Les manières de faire évoluent et on est dans une phase de transition importante. Et on accompagne techniquement de plus en plus d'agriculteurs vers des pratiques qui apportent plus d'autonomie. Il y a vraiment cette volonté au sein des exploitations agricoles de retrouver de l'autonomie dans les systèmes, de moins être dépendant de l'extérieur.
Voilà, je vous amenais voir des bœufs qui sont à l'engraissement depuis 5 mois, voilà, avec notre farine produite sur exploitation et au foin.
On retrouve Gaël Giordano sur son exploitation. Il produit aussi de la viande et bien évidemment, ces bêtes sont nourries en bio.
Donc des bêtes qui sont en autonomie totale et qui sont finies pour un boucher local. Donc il vient voir la bête à la maison. Voilà, donc le prix d'achat est fixé. Et là, il m'a demandé de l'y amener cet après-midi à l'abattoir de Pamiers. Voilà, donc je suis capable de vous dire ma viande, d'où elle vient, comment elle a été produite et quelle saveur elle aura. Bon, mais ça, le mieux, c'est que vous en achetiez et que vous me disiez après.
Et vous trouvez des débouchés facilement.
Des débouchés...
On vous l'achète au bon prix.
À un bon prix, même si aujourd'hui on est à la recherche encore d'une revalorisation, puisque quand même on engraisse ces bêtes avec des céréales et du foin qui sont produits en bio. Et donc, comme on dit, produits en bio, mais ça demande un peu plus d'investissement. Donc, je dis que ce travail-là doit être récompensé. Il faut savoir que pour produire une tonne d'orge, ce que ça me demande un investissement, quoi.
Et sur une tonne d'orge en bio et une tonne d'orge en conventionnel, c'est quoi la différence de coût ?
Simple au double. Donc il faut se dire qu'il faut qu'on revalorise la viande. Là, aujourd'hui, on la valorise comme quelqu'un en conventionnel, quoi. Si j'y retrouve pas de rentabilité, malheureusement, c'est quelque chose que je pourrais plus continuer. Et c'est dommage de perdre quand même des valeurs de notre métier, un savoir-faire. Et de faire de la bonne viande, bon, je crois que le consommateur attend de bien manger, quoi.
Le glyphosate et ses dangers pour la santé, c'est une longue série d'enquêtes scientifiques qui parfois se contredisent.
Donc sur les dangers du glyphosate.
Nous sommes de retour avec Françoise Weber, directrice générale déléguée à l'ANSES.
On a d'un côté un organe qui dépend de l'OMS, qui s'appelle le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui en 2015 dit que le glyphosate est cancérigène probable.
Pratiquement, c'est une étude sérieuse ?
Alors c'est sur la base d'études de la littérature, c'est-à-dire de données de la littérature et uniquement de la littérature internationale. Au même moment, l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui est en charge des produits phytopharmaceutiques et notamment d'évaluer les substances actives phytopharmaceutiques, dit que non, le glyphosate n'est pas cancérigène. Devant cette discordance, nous nous sommes également posé la question. Nous avons réuni des experts indépendants et nous avons demandé à ce groupe d'experts, oui ou non, le glyphosate est-il cancérogène de classe 1, puisque cancérogène probable correspond dans la classification internationale à la classe 1, ou pas. Et ce groupe d'experts nous a dit, en regardant les résultats du CIRC et de l'EFSA, nous estimons que le glyphosate n'est pas cancérogène probable. Peut-être faut-il se poser la question d'une cancérogénicité de degré moindre, mais aujourd'hui, on ne peut pas conclure. Donc, il laissait une question ouverte sur un degré moindre de cancérogénicité. Alors, pendant ce temps-là, l'Union européenne a questionné une autre agence, qui est l'Agence européenne des produits chimiques, qui est l'agence en charge de la classification finale des produits. Et l'Agence européenne des produits chimiques a dit non, le glyphosate n'est pas cancérogène. Et d'autres agences internationales sont arrivées à cette conclusion. Donc aujourd'hui, on a le CIRC, donc l'agence de l'OMS, qui dit sur la base d'une partie des données, oui, le glyphosate est cancérigène, et puis les autres agences qui disent, en prenant en compte d'autres données, dont des données qui n'ont pas été publiées, des données industrielles, et ça peut prêter à discussion, effectivement, mais des études qui sont prises en compte et qui sont vérifiées habituellement dans les dossiers, les autres agences ont conclu que non. Les ministres nous ont demandé, et nous sommes en train de le faire, d'aider à trancher cette question. Donc là, nos experts, toujours les experts indépendants avec lesquels nous travaillons, sont en train d'élaborer le cahier des charges d'une étude, en essayant d'avoir l'étude qui permette de conclure au mieux sur cette question, dans les meilleurs délais.
Ça serait une réponse définitive sur la dangerosité ou non pour la santé du glyphosate.
Alors, on n'a jamais de réponse définitive en matière scientifique, mais ça permettrait, nous l'espérons, de trancher ce débat et de pouvoir avoir une base solide sur les dangers du glyphosate.
Direction la plaine ariégeoise dans le nord de l'Ariège. Nous allons à la rencontre d'un autre agriculteur, en conventionnel cette fois, Boris Rouquet, qui est céréalier. Et nous allons dans la commune de Mazères.
Bonjour,
madame Mathieu de France Inter.
Boris Rouquet, donc bienvenue sur mon exploitation. Je cultive 250 hectares de céréales, mais aussi ce qu'on appelle des semences. C'est un peu le cœur de métier de l'exploitation. Et donc sur l'exploitation, on est deux associés, plus un salarié. Donc on vit à trois familles sur ces 250 hectares.
Et vous êtes en conventionnel, c'est ça ?
Je suis en conventionnel. Alors j'ai quand même une particularité, comme d'autres, de travailler en réduction de doses de produits phytosanitaires ou d'engrais, voilà, pour limiter les charges et l'impact sur l'environnement. Voilà, donc là c'est mes parcelles. C'est des semis de féverol. Entre parenthèses, on passe dans l'Haute-Garonne.
Ah.
Sur la marche. Hein.
Est-ce que pour vivre correctement de votre exploitation, vous êtes amené à chercher plus de rendement ou est-ce que c'est pas votre logique ?
On nous paie les céréales, nos denrées au kilo, donc si on ne produit pas beaucoup de kilos, on n'a pas beaucoup de sous, on ne fait pas beaucoup de marge. Mais en même temps, moi je suis parti du principe qu'il fallait travailler sur les charges. Donc diminuer les engrais et les produits phytosanitaires, pour moi, c'était une des priorités sur l'exploitation. Voilà.
De combien vous avez diminué l'utilisation des produits phytosanitaires ?
52%.
Ah, c'est beaucoup ?
Oui, c'est beaucoup.
Comment vous expliquez que cette réflexion-là n'ait pas été menée par vos parents, par exemple, avant ?
sans vouloir les accabler.
Non, non, mais il faut pas les accabler, mais c'était une autre époque, quoi. C'était une autre époque, il y avait beaucoup moins de contraintes, on parlait moins d'environnement. Les céréales étaient beaucoup mieux payées qu'aujourd'hui. C'était, voilà, c'était les années 80-90, enfin voilà, et aujourd'hui c'est plus compliqué.
Est-ce que vous ressentez la pression de la société qui, depuis quelques années, voilà, pointe du doigt l'usage, l'utilisation des produits phytosanitaires, et notamment du glyphosate? On parle beaucoup du glyphosate, mais il n'y a pas que ça. On sent que la société, en tout cas, fait pression d'une certaine manière sur les agriculteurs?
Oui, la société fait pression. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que la société, elle accepte de se nourrir aussi avec des produits qui sont fortement contaminés, qui viennent de l'étranger, notamment des produits OGM ou des blés qui sont traités au glyphosate. C'est quand même un paradoxe, quoi. Elle accepte ça et elle accepte pas que nous, ici, en France, avec toute la réglementation qu'on a, toute la technicité qu'ont les agriculteurs, qu'on en mette à petite dose ou... voilà. Ça me gêne un peu. Au monde, on a l'agriculture la plus vertueuse et en même temps, on est montré du doigt par une partie de la société, parce que je pense pas que les Français soient totalement contre leur paysan ou l'agriculture. Je pense qu'ils aiment bien leur paysage et son monde agricole.
Glyphosate, la molécule de la discorde, c'était un reportage de Benjamin Mathieu. Prise de son, Arthur Gerbeau et Frédéric Quérou. Mixage, Julien Chabassu. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. À la semaine prochaine.